De nos jours, dans la plupart des régions du monde, les gens ont au moins deux noms. D'une part, ils ont un nom de famille qui les rattache à un groupe de personnes en particulier, et d'autre part, ils ont un prénom qui les identifie en tant qu'individus. Du coup, quand on parle de Jésus-Christ aux enfants, ils supposent bien souvent que Jésus est son prénom et que Christ est son nom de famille. Même les adultes parfois se l'imaginent. Cela ne devrait pas nous surprendre. Après tout, même la Bible emploie le mot Christ de temps en temps, comme si c'était le nom de Jésus. Mais en réalité, le mot Christ est un titre qui désigne la fonction et le statut de Jésus dans le royaume de Dieu. Ceci est la deuxième leçon de la série Nous croyons en Jésus et nous l'avons intitulée Le Christ. Dans cette leçon, nous allons nous intéresser aux événements et aux caractéristiques de la vie de Jésus qui expliquent en quoi il est le Christ. Le mot Christ signifie tout simplement oint. C'est la traduction dans le Nouveau Testament du mot grec Christos, qui lui-même est la traduction d'un mot hébreu que l'on trouve dans l'Ancien Testament, le mot Machiah ou Messie. Beaucoup de gens sont étonnés lorsqu'ils découvrent que la Bible n'emploie pas le terme Christ ou oint seulement pour désigner Jésus. En fait, c'est un terme relativement courant dans l'Ancien Testament qui s'applique aux personnes que l'on oignait d'huile afin de les mettre à part pour Dieu, en vue d'un service particulier. À certains moments dans l'histoire de l'Ancien Testament, tous les prophètes, les prêtres et les rois étaient susceptibles d'être appelés communément des oints. Par exemple, une des utilisations les plus importantes du mot Messie ou Christ dans l'Ancien Testament sert à désigner les descendants de David qui ont occupé la fonction de roi en Israël et en Juda. C'est ce qu'on voit dans des passages comme 2 Chroniques, chapitre 6, verset 42, Psaume 89, versets 39 et 40, ainsi qu'au verset 52, et Psaume 132, versets 10 et 17. Mais dans certains passages de l'Ancien Testament, il y a aussi l'attente de la venue future d'une personne ointe tout à fait différente des autres. Cette personne-là incarnerait à elle-même tous ses rôles d'une manière particulière et accomplirait tous les desseins salvateurs de Dieu dans le monde. Et pour les Juifs, ce personnage a fini par être connu simplement comme étant le Messie ou le Christ. Et bien entendu, les chrétiens dans le monde entier savent que ce fameux Messie, c'est Jésus, celui qui est oint par-dessus tous les autres, le Christ. Notre étude consacrée à Jésus le Christ sera divisée en quatre parties. D'abord, nous verrons sa naissance et sa préparation, et nous noterons la signification théologique de certains événements qui ont eu lieu pendant cette période. Ensuite, nous parlerons de son ministère public en tant que Christ. Troisièmement, nous étudierons sa passion et sa mort. Et quatrièmement, nous nous intéresserons aux événements qui se rapportent à son exaltation en tant que Christ. On commence donc par sa naissance et sa préparation. Dans cette leçon, lorsque nous parlons de la naissance de Jésus et de sa préparation en vue d'exercer sa fonction messianique, nous faisons référence à la période qui commence avec l'annonce de sa naissance imminente et qui s'achève lorsqu'il revient victorieux de la tentation dans le désert. Nous allons examiner en détail plusieurs événements de cette partie de sa vie, mais d'abord, résumons rapidement l'ensemble de la période. Peu avant la naissance de Jésus, des anges annoncent l'heureux événement à sa mère, Marie, qui est vierge, et aussi au fiancé de Marie, Joseph. L'ange Gabriel prédit la naissance de Jésus à Marie dans Luc chapitre 1 versets 26 à 38. Et un ange du Seigneur transmet un message similaire à Joseph, le fiancé de Marie, dans Matthieu chapitre 1 versets 20 et 21. Joseph et Marie vivaient dans le pays d'Israël qui faisait partie de l'Empire romain. Et vers la fin de la grossesse de Marie, un décret de César Auguste a obligé Joseph et Marie à aller se faire recenser dans la ville de Bethléem. C'est ce qui nous est rapporté dans Luc chapitre 2, versets 1 à 5. D'après Luc chapitre 2, versets 6 à 20, Jésus est né pendant ce séjour à Bethléem. Sa naissance a été annoncée par des multitudes d'anges à des bergers qui se trouvaient près de là, qui sont ensuite allés le voir et qui ont raconté ce qu'ils avaient entendu. D'après la mention qui est faite par Luc de certains responsables politiques et de certains événements historiques, auxquels s'ajoute l'histoire extra-biblique, les historiens estiment en général que Jésus est né vers l'an 4 avant Jésus-Christ. La Bible ne rapporte pas beaucoup d'éléments concernant l'enfance de Jésus, mais Luc, chapitre 2, verset 21, dit qu'il a été circoncis et qu'il a reçu son nom 8 jours après sa naissance. De plus, lorsqu'il est présenté au temple, deux serviteurs fidèles de Dieu, Siméon et Anne, le reconnaissent comme étant le Christ tant attendu. C'est ce qu'on voit dans Luc chapitre 2, versets 22 à 40. Et des mages venus d'Orient le reconnaissent comme étant le roi des Juifs, dont la naissance a été marquée par des mouvements surnaturels d'étoiles. C'est ce qu'on voit dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Mais Jésus n'est pas resté très longtemps en Israël. Lorsque le roi juif Hérode le Grand a appris de la bouche des mages que le nouveau roi des Juifs était né, il a voulu éliminer le Messie qui venait de naître. Il a donc ordonné l'exécution de tous les garçons de 2 ans ou moins se trouvant dans la région de Bethléem. Mais Dieu a averti Joseph et celui-ci s'est enfui en Égypte avec sa famille. Après la mort d'Hérode, la famille est revenue en Israël. Puis, suite à un autre avertissement de Dieu, Joseph a installé sa famille dans la petite ville de Nazareth, loin du nouveau roi juif, le fils d'Hérode, Archélaüs. Ces éléments nous sont rapportés dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 23. Pendant l'enfance de Jésus, sa famille se rendait aux fêtes annuelles des Juifs qui se tenaient à Jérusalem. Et d'après Luc chapitre 2, versets 41 à 52, lors d'un de ses voyages, Jésus, qui avait 12 ans, a beaucoup impressionné les responsables religieux et les enseignants par sa connaissance et sa sagesse. Lorsque Jésus avait à peu près 30 ans, il a commencé à se préparer pour son ministère public. D'abord, il a été baptisé par Jean-Baptiste, comme on le voit dans Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17, dans Marc, chapitre 1, versets 9 à 11, et dans Luc, chapitre 3, versets 21 à 23. Ensuite, juste après son baptême, Jésus a passé 40 jours à jeûner dans le désert, comme on le voit dans Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11, dans Marc, chapitre 1, versets 12 et 13, et dans Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Pendant qu'il était dans le désert, il a résisté aux tentations de Satan avant d'émerger publiquement pour commencer son ministère. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur Jésus concernant sa naissance et sa préparation, mais nous allons nous concentrer sur 3 événements seulement: son incarnation, son baptême et sa tentation. Commençons par l'incarnation de Jésus. Le terme théologique « incarnation » désigne la notion d'après laquelle Jésus a pris de façon permanente la nature humaine, ce qui inclut à la fois un corps humain et une âme humaine. Il y a beaucoup de passages de l'Écriture qui parlent de l'incarnation, comme par exemple Jean, chapitre 1, versets 1 et 14, Philippiens, chapitre 2, versets 6 et 7, et Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 17. Dans cette leçon, nous allons parler de la signification théologique de l'incarnation de Jésus en nous intéressant d'abord à sa naissance virginale, puis à son statut en tant qu'héritier de David, puis à l'union hypostatique de ces deux natures, humaine et divine. Commençons par sa naissance virginale. La mère de Jésus, Marie, était une vierge au moment de la conception de Jésus jusqu'à sa naissance. Jésus a été conçu par le moyen d'une intervention miraculeuse du Saint-Esprit et Marie est restée vierge jusqu'à après la naissance de Jésus. Ces faits sont affirmés explicitement dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25 et dans Luc chapitre 1, versets 26 à 38. La naissance virginale de Jésus implique au moins 3 choses. D'abord, puisque Jésus est né d'une femme, cela veut dire qu'il est vraiment un homme. D'après des passages comme Genèse, chapitre 1, versets 21 à 28, le dessein originel de Dieu fait que les créatures se reproduisent chacune selon son espèce. Il résulte notamment de ce fait que les êtres humains femmes donnent toujours naissance à d'autres êtres humains. Cela veut dire que Jésus s'est développé dans le sein de Marie d'une façon parfaitement identique à tout autre bébé humain, de sorte qu'il était lui aussi doté d'une nature pleinement humaine, composé d'un corps et d'une âme. Grégoire de Nazianze, l'évêque de Constantinople qui a vécu de l'an 325 à l'an 389, parle de l'importance de la nature humaine de Jésus dans son épître 51. Voici ce qu'il dit. Ce qu'il n'a pas endossé, il n'a pas non plus guéri. Si Adam n'est tombé qu'à moitié, alors ce que Christ a endossé et sauvé, il ne l'a fait qu'à moitié aussi. Mais si la nature d'Adam est entièrement tombée, alors elle doit être attachée à la nature entière de celui qui a été engendré, et ainsi être entièrement sauvée. Ne les laissez donc pas nous reprocher notre salut complet, ni revêtir le Sauveur seulement d'os et de nerfs et d'un semblant d'humanité. Grégoire de Nazianze fait écho à Hébreux chapitre 2, verset 17, en affirmant que le salut des êtres humains nécessite un Sauveur qui nous soit semblable, ayant lui-même pleinement la nature humaine. Deuxièmement, puisque Jésus a été conçu miraculeusement du Saint-Esprit, il était, dans sa nature humaine, complètement dépourvu de péché. D'après Romains chapitre 5, versets 12 à 19, le péché originel d'Adam a rendu coupables tous les êtres humains. De plus, d'après Romains chapitre 7, versets 5 à 24, nous sommes tous corrompus et habités par ce péché. Mais la Bible affirme clairement que Jésus est né sans péché. C'est ce qu'on voit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 et dans 1 Jean chapitre 3, verset 5. C'est aussi ce qui est sous-entendu dans l'annonce de la naissance de Jésus dans Luc chapitre 1, verset 35. Bien que les théologiens aient toujours reconnu qu'il y avait quelque chose de mystérieux dans le fait que Jésus ait pu éviter la culpabilité et la corruption du péché tout en naissant d'une mère humaine, en général, ils s'accordent néanmoins pour dire que la naissance virginale pointe sans équivoque vers la présence efficace, surnaturelle de Dieu qui a permis que cela soit possible.
Jésus devait être sans péché parce que Jésus est venu pour racheter des pécheurs. Et donc, toute la typologie du système sacrificiel de l'Ancien Testament, par exemple, où il fallait que les animaux offerts en sacrifice soient sans tache et sans défaut, représente cette nécessité pour Jésus lui-même d'être sans péché, irréprochable, lorsqu'il viendrait faire l'expiation pour nous. Celui qui vient expier pour les pécheurs doit lui-même être sans péché.
Pour que s'accomplisse pleinement la typologie du sacrifice de substitution tel qu'on le montre dans l'Ancien Testament, il faut que le sacrifice soit sans péché, c'est-à-dire parfait. Je pense qu'on peut comprendre sans difficulté que si Christ avait été participant comme nous de la nature pécheresse, et si lui-même avait été enclin à pécher, il aurait lui aussi, automatiquement, eu besoin de quelqu'un qui compense son propre besoin aux yeux d'un Dieu saint. Mais c'était précisément le fait qu'il était sans péché qui le qualifiait pour être l'avocat dont les individus pécheurs avaient besoin. Une autre façon de voir les choses, qui ne contredit pas celle-ci, mais plutôt la complète, consiste à voir Jésus comme étant le second Adam. C'est-à-dire celui qui a réussi là où le premier Adam a échoué. Adam n'a pas réussi à vivre dans l'obéissance parfaite à Dieu, mais Jésus, oui. Donc, quel que soit le point de vue, que ce soit le fait que Jésus ait été le second Adam ou le fait que Jésus ait été le sacrifice d'expiation idéal et parfait, eh bien le fait qu'il ait été sans péché est un point de la plus haute importance. C'est un élément essentiel de la bonne nouvelle concernant le Messie.
Une troisième chose qu'implique la naissance virginale de Jésus, c'est qu'il est vraiment le Messie qui était promis, qui est venu pour délivrer son peuple du péché et de la mort. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, Joseph reçoit dans un rêve cette prophétie. Marie enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et dans Matthieu chapitre 1, verset 22 et 23, Matthieu interprète cette prophétie en disant « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par les prophètes. Voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit « Dieu avec nous ». Dans cette explication, Matthieu cite Ésaïe chapitre 7 verset 14 Et ce qu'il affirme, c'est que puisque la naissance de Jésus est conforme à cette prophétie, cela prouve qu'il est le Christ. Certains commentateurs évangéliques estiment que la prophétie d'Ésaïe concernant une naissance virginale fait directement référence à Jésus. D'autres pensent qu'elle pointe vers Jésus de manière typologique. Mais tous les évangéliques sont d'accord pour dire que Marie est devenue enceinte miraculeusement sous l'effet du Saint-Esprit et que la naissance virginale de Jésus prouve qu'il est le Messie annoncé par les prophètes, au travers duquel Dieu allait sauver son peuple du péché et de la mort. Nous avons parlé de l'incarnation de Jésus en évoquant sa naissance virginale. Maintenant, nous allons considérer son statut en tant qu'héritier de David.
Dans Matthieu, chapitre 1, le récit commence par une généalogie de Jésus qui montre qu'il est le fils d'Abraham et le fils de David. C'est un élément très important pour Matthieu. Et la raison pour cela se trouve dans l'Ancien Testament et remonte à l'époque du roi David. Dieu avait en quelque sorte établi le modèle de son royaume, la façon dont son règne devait être exercé dans le monde. Et le roi David était un genre de prototype, l'exemple du règne que Dieu prévoyait, c'est-à-dire le règne de Dieu sur le peuple de Dieu, dans le territoire de Dieu. Et donc, étant donné ce modèle qui remonte à l'Ancien Testament, il est très important que Jésus, en venant, réalise ce modèle. Donc voilà déjà une première raison. Une autre raison se trouve dans 2 Samuel 7, un passage de l'Ancien Testament où une promesse est faite à David, d'après laquelle son trône sera un jour occupé pour toujours par celui qui établirait le règne de Dieu. Et cette promesse avait été, en quelque sorte, compromise lorsqu'Israël s'est retrouvé sans roi pendant 5 ou 600 ans. Et donc Jésus arrive, et on découvre d'après les évangiles que c'est lui maintenant qui occupe le trône de David. Il était donc très, très important que le Messie vienne de la lignée de David.
Il est très important de reconnaître que Jésus est l'héritier de David parce que c'est ce qui le met légalement en position d'être le Messie ou le Christ. Au Xe siècle avant Jésus-Christ, Dieu avait conclu une alliance avec David et avait promis d'établir un royaume éternel sur la terre, dont le chef serait un descendant de David. Il est question de cette alliance dans 2 Samuel 7 et dans 1 Chronique 17. Le royaume de David a été divisé après la mort de son fils Salomon. Mais l'Ancien Testament prédisait qu'un autre roi viendrait de la lignée de David, connu sous le nom de Messie ou du Christ, et qu'il rétablirait le royaume. Plusieurs passages font référence à lui comme Psaume 89, versets 4 et 5, Psaume 110, versets 1 à 7, et Psaume 132, versets 17. Ce roi viendrait pour relever le royaume de David et pour ramener les captifs en terre promise. Et il serait le vecteur des bénédictions de Dieu envers la nation. Ses promesses apparaissent dans beaucoup de passages, comme dans Jérémie chapitre 23, 30 et 33, ou encore dans Ézéchiel chapitre 34, versets 20 à 31, et chapitre 37, versets 20 à 28. Voilà pourquoi les généalogies de Jésus que l'on trouve dans Matthieu chapitre 1 et dans Luc chapitre 3 soulignent le fait qu'il est un descendant de David. Cette précision est destinée à montrer que Jésus peut légitimement prétendre à la fonction de Messie ou de Christ. Maintenant que nous avons parlé de la naissance virginale de Jésus, puis de son statut en tant qu'héritier de David, nous pouvons passer à la question de l'union hypostatique. Le terme technique d'union hypostatique désigne le fait que Jésus est une seule personne avec deux natures distinctes, la nature divine et la nature humaine, chacune conservant ses attributs propres. Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Depuis toute l'éternité, il a toujours été pleinement divin, avec tous les attributs de la nature divine. Et au moment de sa conception et de sa naissance en tant qu'être humain, il a ajouté à sa personne une vraie nature humaine avec tous ses attributs essentiels. Le concile œcuménique de Chalcédoine, qui s'est tenu en l'an 451, a résumé ce qu'enseignait la Bible sur l'union hypostatique à travers une déclaration que l'on appelle le symbole de Chalcédoine, ou parfois la définition de Chalcédoine, ou encore le credo de Chalcédoine. En voici un extrait. Nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, en tout semblable à nous, sauf le péché. Reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation, la différence des deux natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase. Cette définition peut paraître un peu technique, mais pour la résumer, on peut en distinguer trois éléments. D'abord, elle affirme que Jésus a deux natures, à savoir une nature divine et une nature humaine.
L'union hypostatique fait référence à quelque chose qu'on appelle une nature. Cette doctrine affirme deux natures, mais une seule personne, et les deux natures sont unies à cette personne. Le terme de nature désigne la substance, le matériau, les propriétés de sa nature humaine et parallèlement de sa nature divine qui est différente. Donc normalement, la nature humaine est constituée de deux choses. Un corps et une âme, ou pour le dire autrement, un élément spirituel et un élément physique. Et il faut avoir les deux pour pouvoir dire qu'on existe pleinement en tant qu'être humain. La nature divine, quant à elle, est constituée de toutes les propriétés, tous les pouvoirs, toute l'essence de Dieu. Et ce que vont dire quand on emploie ce terme de nature, c'est que Jésus existe de ces deux manières. Il a ces deux façons d'être ou de vivre. Et donc, il est pleinement homme, homme à 100%. Et donc, le mot « nature » nous permet simplement de dire qu'il possède tout ce qu'il faut pour être un véritable être humain. Et il a aussi une nature divine, c'est-à-dire qu'il possède tout ce qu'il faut pour être véritablement Dieu.
Le Fils éternel de Dieu a toujours possédé et possédera toujours tous les attributs essentiels de Dieu. Par exemple, il est infini, éternel et immuable dans son être, dans sa sagesse et dans sa puissance. Par conséquent, tout ce que l'Ancien Testament dit concernant la nature de Dieu s'applique aussi à Jésus. C'est ce que montrent des passages comme Jean chapitre 1, versets 1 à 3, et chapitre 10, verset 30, et Hébreux chapitre 1, versets 2 et 3. Ce que cela veut dire, c'est que Jésus est un Christ absolument parfait. Il fait toujours la volonté de Dieu, et il est absolument incorruptible. Il ne reviendra jamais sur ses promesses et n'échouera jamais dans leur réalisation. Et ses perfections intrinsèques ont fait de lui un sacrifice d'une valeur infinie le jour où il est mort pour nous sur la croix. En même temps, Jésus possède tous les attributs essentiels de l'homme comme un corps humain et une âme humaine. C'est ce qui explique pourquoi il lui était possible de faiblir, de se blesser ou de mourir. Pourquoi il était limité physiquement, et ainsi de suite. Il est question de la nature pleinement humaine de Jésus dans des passages comme Hébreux chapitre 2, versets 14 et 17, et chapitre 4, verset 15, et Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. Et la nature humaine de Jésus est indispensable à son rôle en tant que Christ. C'est ce qui lui permet d'être l'héritier de David et d'occuper les fonctions de prophète, de prêtre et de roi, qui sont des fonctions humaines. Et d'après Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 17, c'est aussi ce qui le qualifie pour être notre substitut lorsqu'il meurt à notre place, puisque seule la mort d'un homme pouvait expier les fautes des hommes.
Au moment de l'incarnation, Dieu, qui engendre éternellement le Fils, couvre Marie de son ombre, de telle sorte que le Saint-Esprit fait apparaître en elle notre propre nature humaine. Il y a donc dans ce bébé tout ce qui nous caractérise dans notre humanité, tout ce qui est essentiel par rapport à la façon dont Dieu nous a créés à son image. Jésus avait des émotions humaines, une intelligence humaine. Il prenait des décisions comme tout être humain, c'est-à-dire sur la base des éléments qu'il connaissait. Comme l'a dit Edward, l'effet ultime de la connaissance, c'est ce que l'on fait à la fin. Donc tout ce qui caractérise notre façon d'être et d'agir en tant qu'être humain, Jésus l'a endossé. Mais en même temps et mystérieusement, bien qu'il se soit dépouillé des manifestations externes de la gloire qu'il avait avec le Père, il ne s'est dépouillé d'aucun attribut essentiel de sa condition éternelle en tant que Fils de Dieu. Il a continué d'être omnipotent. Il a continué d'être omniscient. Il a continué d'être parfaitement saint. En tant que Fils de Dieu, il a continué de savoir à tout moment pourquoi la rédemption était nécessaire. Et donc, toutes ces choses étaient constitutives de sa nature divine, et il n'en a abandonné aucune. Donc, quand on parle des deux natures qui existent dans le cadre de l'union hypostatique, ce qu'on est en train d'affirmer, c'est qu'en Jésus, on a une nature pleinement humaine, parce que ce sont des humains qui ont besoin d'être rachetés. Et on a une nature pleinement divine, parce que seul Dieu peut accomplir cette rédemption. C'est Dieu qui est sauveur. Donc une nature pleinement divine et une nature pleinement humaine qui coexistent en une seule personne.
Deuxièmement, le symbole de Chalcédoine insiste aussi sur le fait qu'il y a une distinction à faire entre les deux natures de Jésus. Jésus n'a pas une nature hybride qui combinerait les attributs humains d'une part et divins d'autre part. Les attributs humains de Jésus n'empêchent en rien ses attributs divins. Et ses attributs divins n'améliorent pas non plus ses attributs humains. Chacune des deux natures, en fait, demeure inchangée. Preuve en est, par exemple, la façon dont Jean affirme à la fois la nature divine et la nature humaine de Jésus dans Jean, chapitre 1, verset 3, et au chapitre 8, verset 40. Voilà pourquoi Jésus devait croître en sagesse, en stature et en grâce, bien qu'il fût Dieu. Du point de vue de sa nature humaine, Jésus devait bien apprendre à marcher, à parler, à réfléchir, et ainsi de suite. Il devait apprendre à connaître la volonté de Dieu. Et toutes ces choses sont importantes en ce qui concerne son rôle en tant que Christ, puisque ces choses lui ont permis de grandir en connaissance et en expérience, et ainsi le rendent capable d'être encore plus compatissant envers nous dans notre faiblesse, conformément à ce qu'on voit dans Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18. Troisièmement, le symbole de Chalcédoine affirme que Jésus n'est qu'une personne.
Dans le contexte de l'union hypostatique, la personne ou l'hypostase désigne le sujet ou l'agent. C'est l'entité dont il est dit qu'elle a deux natures. C'est la réalité ultime, unique, qui est le sujet de toutes les actions commises à travers les deux natures. Tantôt en tant que Dieu, tantôt en tant qu'homme. Donc la personne, c'est celui qui possède la nature. À qui appartient ce corps? Il m'appartient, c'est à moi, c'est moi la personne. La nature, c'est ce que je possède, et la personne, c'est ce que je suis au fond. La conscience que j'ai de moi-même et des autres.
Telle est la sagesse de Dieu, tel est le mystère de l'incarnation. Il y a ces deux natures qui réunissent une volonté humaine et une volonté divine, des affections humaines et des affections divines. La connaissance humaine et l'ignorance humaine, associées à l'omniscience divine, tout cela en une seule personne. Et il y a beaucoup de choses qu'on arrive mieux à comprendre dans l'Écriture quand on se rend compte qu'il y a des moments où Jésus s'exprime en tant qu'être humain, notamment quand il s'agit de son rôle de Christ, et qu'il parle de son obéissance et de sa soumission au Père. Et parfois, il agit manifestement en tant que Dieu. Il dit par exemple « Tes péchés te sont pardonnés ». Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu ? Mais ces deux exemples concernent la même personne, le même sujet. Et donc, encore une fois, la rédemption nécessite l'unité de cette personne, l'indivisibilité de cette personne qui est à la fois Dieu et homme.
Jésus n'est pas constitué de deux personnes et n'a pas deux consciences, comme si une personne humaine accueillait dans son corps une personne divine. Il n'est pas non plus une seule personne qui serait une sorte de mélange ou d'hybride de deux personnes ou de deux consciences différentes, comme si une personne divine avait fusionné avec une personne humaine. Ce qu'on voit dans des passages comme Jean chapitre 17, versets 1 à 5, ou comme Colossiens chapitre 2, verset 9, c'est que Jésus est et a toujours été la deuxième personne de la Trinité, éternel et immuable, que l'on connaît sous le nom du Fils de Dieu. C'est très important, car cela veut dire que Jésus manifeste toujours toutes les qualités divines de manière parfaite. Par exemple, du point de vue de sa nature humaine, Jésus a dû acquérir des connaissances. Mais du point de vue de sa nature divine, il a toujours été et sera toujours omniscient. Et puisque Jésus manifeste toujours tous les attributs divins de manière parfaite, cela veut dire qu'on peut lui faire pleinement confiance et que l'on peut compter sur le fait qu'il va accomplir toutes ses promesses et tout son dessein. Jésus est la seule personne qui ait jamais existé, qui soit à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Cette particularité devrait beaucoup nous encourager. Puisque Jésus est pleinement homme, cela veut dire qu'il peut compatir à toutes nos faiblesses et à toutes nos souffrances. Notre Sauveur est passé par là.
Et il a supporté cette vie sans jamais tomber dans le péché, ce qui veut dire qu'on peut le suivre sans hésitation. En même temps, puisqu'il est aussi Dieu, on peut avoir l'assurance qu'aucune faiblesse humaine ne pourrait jamais l'empêcher de nous racheter. Son pouvoir et son autorité sont illimités, et il est certain qu'il accomplira pour nous ses promesses et son dessein. Jésus étant pleinement Dieu et pleinement homme, il est le roi, le médiateur et le sauveur parfait.
Nous avons évoqué la naissance et la préparation de Jésus en parlant de son incarnation. Maintenant, parlons de son baptême. Nous allons nous intéresser au baptême de Jésus en relevant trois façons dont ce baptême l'a préparé pour son ministère. Nous commençons par le fait que le baptême de Jésus constitue la confirmation de la fonction de Christ à laquelle il est appelé. On peut dire, dans un sens, que Jésus occupe la fonction de Christ depuis le début de son incarnation. Depuis sa naissance, il est l'héritier de David et il a été annoncé par les anges comme étant le Christ. Mais son mandat n'a pas été officiellement publié, en quelque sorte, jusqu'au jour de son baptême, où cela a été fait publiquement par les autres membres de la Trinité. Le Saint-Esprit a confirmé que Jésus était le Christ en descendant sur lui comme une colombe. Et Dieu le Père a confirmé que Jésus était le Christ en parlant de manière audible depuis le ciel. Ni le Saint-Esprit, ni le Père n'a employé spécifiquement le terme de Christ à ce moment-là. Mais Dieu avait déjà révélé à Jean-Baptiste que celui qui recevrait ces signes serait le Christ. Ces détails nous sont rapportés dans Luc chapitre 3, versets 15 à 22, et dans Jean chapitre 1, versets 19 à 36. Cette confirmation de la fonction de Christ a préparé Jésus pour son ministère, en annonçant à la nation et au monde que le Christ de Dieu était enfin venu. Deuxièmement, le baptême de Jésus constitue une onction pour l'office de Christ. Certains ont refusé de reconnaître Jésus comme étant le Christ dans la mesure où il n'avait jamais été oint d'huile pour l'office du Messie. Mais ce qu'on apprend dans les évangiles, c'est que Jésus a été oint du Saint-Esprit à l'occasion de son baptême. Cette onction déclare solennellement que Jésus est le Christ et lui permet d'être habilité pour son ministère. En tant que Dieu incarné, Jésus est omnipotent, mais l'office de Christ est un office humain. Donc Jésus a mis un voile sur sa puissance et sur sa gloire afin de ressembler aux personnes qu'il est venu sauver. Et comme tout autre homme qui aurait été oint, Jésus dépend de la puissance du Saint-Esprit pour exercer son ministère. C'est quelque chose que l'on voit dans des passages comme Luc, chapitre 4, versets 1 et 14, et Actes, chapitre 10, verset 38. Voici ce que dit Jean, chapitre 3, verset 34, au sujet de la puissance que Jésus a reçue du Saint-Esprit. « Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. » Troisièmement, le baptême de Jésus constitue aussi un accomplissement de la justice. Quand Jésus se rend auprès de Jean-Baptiste pour être baptisé par lui, Jean-Baptiste refuse, au motif que Jésus est déjà juste. Jésus n'a jamais péché, et donc il n'a pas besoin de se repentir. Mais Jésus lui répond en disant que le fait qu'il soit sans péché ne suffit pas. Il faut encore qu'il accomplisse tous les actes de justice auxquels il a été appelé. Voici le petit échange qu'ils ont dans Matthieu chapitre 3, versets 14 et 15. Jean s'opposait au baptême de Jésus en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. On comprend mieux la signification du baptême de Jésus quand on tient compte du fait que Jean-Baptiste n'était pas le seul à baptiser des gens à son époque. Un certain nombre de groupes juifs, y compris celui de Jean-Baptiste, se tenaient à l'écart de la corruption de Jérusalem à cette époque-là et se voyaient comme étant le reste fidèle d'Israël. Et ces groupes utilisaient fréquemment des baptêmes ou des lavements rituels en guise d'initiation de leurs membres. Donc, quand Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, il accomplit un acte de justice en reconnaissant le reste fidèle au sein d'Israël et en s'identifiant avec lui. Nous avons donc évoqué la naissance et la préparation de Jésus en parlant de son incarnation, puis de son baptême. Maintenant, parlons de sa tentation. On connaît bien l'histoire de la tentation de Jésus. Elle nous est rapportée dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, et dans Luc chapitre 4, versets 1 à 13. En résumé, le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert où il jeûne pendant 40 jours avant d'être tenté par Satan. Mais même en étant diminué physiquement, Jésus reste fort mentalement et spirituellement. Malgré la faim, il refuse d'employer sa puissance divine pour satisfaire ses désirs. Malgré son autorité, il refuse de prouver son statut en faisant étalage de ses privilèges. Et malgré le fait que son but soit bien de conquérir le monde pour le Père, il refuse d'emprunter le chemin facile mais immoral qui consiste à servir l'ennemi de Dieu. Beaucoup de théologiens font aussi remarquer qu'il y a un parallèle entre la tentation de Jésus par Satan et la tentation d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3. En effet, ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5, versets 12 à 19, c'est que Jésus agit en tant que représentant de son peuple, tout comme l'a fait Adam. Mais là où Adam a échoué et où il a attiré la condamnation sur tous les hommes, Jésus, lui, a surmonté la tentation et il a offert le salut à son peuple.
Jésus a été tenté. Il a été tenté en tout point comme nous, mais d'après la Bible, il n'a pas péché. On est amené à penser naturellement à cet épisode que l'on appelle la tentation ou les tentations dans le désert. Cette triple tentation qui est venue juste après son baptême, au tout début de son ministère public, et où il a été confronté au diable en personne. Je suppose que la plupart d'entre nous n'avons jamais rencontré le diable. Un de ses stagiaires nous suffirait. Mais pour Jésus, Satan vient en personne. Mais en même temps, sa vie tout entière est une vie de tentation. Je pense que ce serait une erreur de se dire que Jésus n'a été tenté qu'à ce moment-là. Ces tentations sont énormes par rapport à ce qu'elles représentent et dans la façon dont elles sont spécifiquement dirigées contre son identité et sa mission. Mais je pense que Jésus a aussi été tenté tout au long de sa vie. Ce que je suis en train de dire, c'est que Jésus est notre représentant. Il est notre substitut. Il est le dernier Adam, le second homme. Et donc, tout comme Adam a été tenté dans le jardin d'Éden, ainsi le dernier Adam, lui aussi, doit être tenté par le serpent. Si Jésus est appelé à nous représenter, il doit être tenté en tout point comme nous. Sinon, il n'est pas notre substitut. L'Écriture affirme très clairement qu'à aucun moment de sa vie, Jésus n'est tombé dans le péché. Il est sans péché, dépourvu de péché dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes. Mais je pense que c'est dans le but de porter nos péchés, d'être notre substitut, qu'il devait d'abord être tenté.
Dans cette leçon, nous allons nous concentrer sur trois aspects importants de la tentation de Jésus. D'abord, sa tentation lui a enseigné l'obéissance. Voici ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 5, versets 8 et 9. Jésus apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Jésus était entièrement sans péché. Il n'a jamais désobéi à Dieu. Mais en même temps, il était pleinement et véritablement humain. Il devait donc apprendre quelles étaient les saintes exigences de Dieu et surmonter des obstacles et des tentations tout au long de sa vie. Comme on le voit à travers l'épisode des tentations dans le désert, Jésus a obéi à Dieu à la fois en respectant les exigences de sa loi et aussi en se soumettant au plan du Père pour sa vie. Et cette obéissance a préparé Jésus pour son rôle en tant que Christ
Car ce qu'on voit dans Hébreux chapitre 5, verset 9, c'est que cette obéissance l'a qualifié pour être un sacrifice agréable à Dieu et pour devenir, par conséquent, la source d'un salut éternel. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que la tentation de Jésus lui a donné de la compassion pour son peuple. Jésus n'a pas cédé à la tentation, mais il en a quand même souffert. Il voyait bien que ce que Satan lui proposait était désirable, et le fait qu'il ait été affaibli physiquement par son jeûne a dû augmenter ce désir. Cette expérience permet à Jésus de mieux compatir à notre faiblesse et de mieux comprendre notre situation, à nous qui souffrons et qui luttons contre la tentation dans notre vie. Voici ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 4, verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché.
Le fait que Jésus ait été tenté de péché, mais qu'il ait résisté à ces tentations, est une source d'encouragement pour les chrétiens, parce que Jésus a été un homme à tout point de vue. Il a fait l'expérience de la tentation, mais il n'a pas succombé. Et dans un certain sens, tout ce que Jésus a subi devient un modèle pour les chrétiens, pour qu'ils sachent à leur tour comment faire face à la tentation.
Quand on voit que Jésus a fait face à la tentation de péché, mais qu'il a résisté, et c'est quelque chose dont parle Hébreux chapitre 4, ce que cela produit en nous, c'est que ça soulage une crainte que nous sommes nombreux à avoir et qui consiste à penser que nous sommes seuls, et que nous faisons l'expérience de quelque chose d'unique lorsque nous sommes attirés vers le mal. Alors qu'en fait, Jésus a appris pendant sa vie sur terre ce que cela voulait dire d'être tenté, et maintenant qu'il occupe pour nous le rôle de grand prêtre dans les lieux célestes, il comprend notre situation. Donc, nous pouvons avoir l'assurance que nous ne sommes pas seuls, qu'il n'y a rien que nous puissions apporter à Jésus qu'il ne comprend pas déjà, et qu'il est vraiment capable d'être une aide pour nous dans ce genre de situation.
La troisième chose qu'on peut mentionner par rapport à la tentation de Jésus, c'est la notion de l'impeccabilité de Jésus. Le mot « impeccabilité » signifie « incapacité de pécher ». Les chrétiens utilisent ce mot depuis des siècles pour parler du fait que Jésus était incapable de pécher. Les théologiens parlent souvent de l'impeccabilité de Jésus dans le contexte de sa tentation, parce que c'est au moment de sa tentation que Jésus aurait été le plus enclin à pécher, si cela avait été possible. Tous les chrétiens savent que Jésus n'a jamais péché. Il n'a jamais succombé à la tentation, il n'a jamais eu de mauvaises pensées, ni de mauvais désirs, ni prononcé de mauvaises paroles. Le fait qu'il ait été sans péché est enseigné dans des passages comme 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, Hébreux chapitre 4, verset 15 et chapitre 7, verset 26, 1 Pierre chapitre 2, verset 22 et 1 Jean chapitre 3, verset 5. Mais Jésus n'était pas non plus capable de pécher. Comme on l'a dit, Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Et Dieu ne peut pas pécher parce que Dieu ne peut pas agir en contradiction avec sa nature. Les trois personnes de la Trinité ont toujours été et seront toujours incapables de pécher. C'est ce qu'on voit dans Habacuc chapitre 1 verset 13, dans Jacques chapitre 1 verset 13 et dans 1 Jean chapitre 1 verset 5 et dans beaucoup d'autres passages. Mais l'impeccabilité de Jésus ne veut pas dire que sa tentation ait été moins réelle. Du fait que Jésus avait une nature humaine, il a fait l'expérience de la tentation en tant qu'être humain. Il a vu la valeur de ce qui lui était proposé, et il a bien compris le profit qu'il pouvait en tirer. Donc, son obéissance et sa compassion ne sont pas moins amoindries par son impeccabilité. En fait, on pourrait même dire que son obéissance et sa compassion sont d'autant plus grandes puisqu'il a pu apprendre parfaitement de cette expérience et maintenant, il répond à nos besoins d'une manière parfaitement adaptée. La période de la naissance et de la préparation de Jésus n'occupe pas beaucoup de place dans les évangiles et donc parfois c'est une période que nous négligeons. Pourtant, elle nous enseigne un certain nombre de vérités importantes. L'une des plus importantes, c'est que le Christ qui était promis, le Messie de Dieu est venu. La naissance de Jésus et sa préparation pour la fonction de Christ révèlent le grand amour et la miséricorde de Dieu, car il ne nous a pas abandonnés en proie au péché et à la mort. Mais il a tenu ses promesses en nous envoyant son propre Fils pour être notre Messie.
Nous avons parlé du rôle de Jésus en tant que Christ en évoquant sa naissance et sa préparation. Maintenant, nous passons à son ministère public. Dans cette leçon, le ministère public de Jésus fait référence à la période qui commence au moment où Jésus se met à prêcher publiquement et qui s'achève au moment de son arrivée finale à Jérusalem. Cette fois encore, nous allons résumer les événements qui ont eu lieu pendant cette période avant d'en considérer quelques aspects plus en détail. D'après Luc, chapitre 3, verset 23, Jésus a environ 30 ans lorsqu'il débute son ministère public, et sur la base des indices que l'on peut récolter dans les quatre évangiles, notamment dans celui de Jean, beaucoup de spécialistes estiment que le ministère public de Jésus a duré environ 3 ans. L'apôtre Jean mentionne notamment le fait que Jésus a assisté à 3 ou 4 fêtes de la Pâque pendant cette période, comme on le voit dans Jean chapitre 2, verset 23, chapitre 6, verset 4, chapitre 11, verset 55, et peut-être chapitre 5, verset 1. D'après Matthieu, chapitre 4, verset 13 à 17, Jésus débute son ministère public à Capernaum, une ville de la région de la Galilée, au nord-ouest de la mer de Galilée. Il prêche le royaume de Dieu et accomplit des miracles dans toute la région de la Galilée et dans d'autres villes d'Israël, comme on le voit dans Matthieu chapitre 4, versets 23 et 24. Pendant ce temps, il se choisit aussi 12 disciples et les prépare pour qu'ils proclament à leur tour le royaume de Dieu, comme on le voit dans Matthieu chapitre 10 et dans Marc chapitre 3. Plus tard, il élargit son ministère à d'autres régions d'Israël, y compris la Samarie et la Judée. À la fin de son ministère public, Jésus se rend intentionnellement à Jérusalem pour y être crucifié. Sur le chemin, il explique à ses disciples qu'il est sur le point d'être mis à mort précisément par le peuple du royaume pour lequel il est venu et pour lequel il a été oint. Bien que le ministère de Jésus ait consisté essentiellement à proclamer la bonne nouvelle de la repentance et de la foi, en raison du fait que le royaume de Dieu était proche, il l'a fait de beaucoup de manières différentes. Il s'est adressé à des genres de personnes différents, des Israélites ordinaires, des responsables religieux, des rejetés de la société, des non-juifs et toutes sortes d'autres pécheurs. Il a rencontré des groupes plus ou moins grands, des foules constituées de plusieurs milliers de personnes, des familles dans l'intimité de leur maison et de simples individus. Il a enseigné dans des lieux très différents, dans des maisons, dans des synagogues et à l'extérieur. Il a utilisé de nombreuses stratégies pédagogiques différentes, des paraboles, des questions, des prophéties, des prédications et même des miracles. Et à chaque fois, les gens reconnaissaient qu'il enseignait avec une autorité unique. Et leur réaction était très forte. Certains étaient conduits à la foi et à la repentance, d'autres à la colère et à la contradiction. Les évangiles contiennent tellement d'informations sur Jésus par rapport à son ministère public qu'on va simplement en souligner 3 éléments importants. D'abord, l'évangile que Jésus a proclamé. Ensuite, la puissance qu'il a manifestée. Et troisièmement, les affirmations qui concernent son onction pour le service en tant que Christ. Commençons par l'évangile que Jésus a proclamé.
Jésus a prêché l'évangile de beaucoup de manières différentes, parfois de façon subtile, parfois de façon très directe. Il l'a fait par le biais de paraboles, de prédications, de conversations, d'invitations prophétiques à recevoir la bénédiction, de menaces de jugement, de prédictions concernant l'avenir, de prières et même de miracles. Mais lorsque les auteurs des évangiles résument son message, ils présentent celui-ci essentiellement comme un appel à la repentance à la lumière de la venue du royaume de Dieu.
Voyez la façon dont l'évangile de Jésus est résumé dans Matthieu chapitre 4, verset 17. « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Marc résume le message de Jésus de façon similaire dans Marc chapitre 1, verset 14 et 15. Et Matthieu attribue le même message évangélique à Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Nous allons nous intéresser à 2 aspects de l'évangile de Jésus. D'abord, la façon dont il annonce que le royaume est venu et deuxièmement, la façon dont il appelle les gens immédiatement à la repentance. Commençons par ce que Jésus dit sur le royaume.
Quand on commence à lire les évangiles, il y a une chose qui va peut-être nous surprendre, quelque chose qu'on va remarquer en tout cas. C'est que l'objet de la prédication de Jésus, de son enseignement, de l'exemple qu'il cherche à donner, c'est clairement le royaume de Dieu. Il ne fait aucun doute, d'après la prédication de Jean-Baptiste qui précède Jésus, et d'après les premières paroles de Jésus lui-même, que le royaume de Dieu est venu ou qu'il est proche, ou que le royaume des cieux est proche. Et ensuite, il y a tout l'enseignement de Jésus. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Toutes les paraboles qui concernent le royaume des cieux, tout l'enseignement, toutes les façons dont Jésus a montré qu'il était le roi davidique qui arrive à Jérusalem sur le dos d'un âne. Toutes ces choses évidentes qui montrent que les évangiles, leurs auteurs, les évangélistes, veulent que nous apprenions que le message de Jésus, sa vie tout entière, concerne l'avènement, le rétablissement du règne de Dieu ou du royaume de Dieu.
Comme tous les Juifs de son époque, Jésus savait que Dieu était, depuis toute l'éternité, le souverain roi de toute sa création. Mais d'après l'Ancien Testament, Jésus prévoyait aussi de manifester son règne éternel à travers son royaume visible sur terre. Comme on l'a vu dans une leçon précédente, ce processus a débuté lorsque Dieu a créé le monde et lorsqu'il a mandaté Adam et Ève pour gouverner la création avec lui. Mais Adam et Ève ont échoué misérablement dans leur tâche qui consistait à perfectionner le monde. Puis, le royaume de Dieu a progressé de nouveau à travers la nation d'Israël qui est devenue un grand empire. Mais il a reculé de nouveau à cause du péché d'Israël et de l'exil du peuple. Et bien que Dieu ait proposé de rétablir la nation à l'époque d'Esdras et de Néhémie, l'infidélité du peuple a eu pour conséquence de prolonger l'exil de plusieurs siècles. À l'époque de Jésus, le peuple d'Israël a donc subi des centaines d'années d'exil, à attendre que le Christ établisse le royaume de Dieu dans toute sa plénitude et en étende tous ses bienfaits au monde. Donc, quand Jésus annonce que le royaume est proche, c'est un message d'espoir extraordinaire. Jésus annonce donc comme une bonne nouvelle que la dernière étape du royaume de Dieu sur terre est arrivée. Le modèle du ciel va bientôt s'appliquer au monde entier. Comme on le voit dans les Béatitudes, dans Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12, le peuple fidèle de Dieu va recevoir de formidables bénédictions dans le royaume de Dieu. La tristesse des croyants va cesser et ils hériteront la terre. Les puissances étrangères ne pourront pas promouvoir de culte idolâtre. Il n'y aura plus de chefs religieux corrompus